journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous à la une ce matin. Le climat aujourd'hui et demain, la France prise en défaut par les experts qu'elle a nommés politiques trop faibles contre le réchauffement, dit le Haut Conseil pour le climat. Les restrictions de circulation aujourd'hui en Île-de-France et dans l'agglomération lyonnaise sont une réponse plutôt rapide. En l'occurrence, avant même les pics de pollution, on verra dans un instant si les automobilistes ont le sens écologique et civique. La radicalisation dans les services publics, c'est l'exception, disent aujourd'hui les députés qui ont planché sur le sujet. Mais dans le sport et les transports, il y a tout de même des inquiétudes. Ils ne feront pas cause commune au Parlement européen, les nationalistes dispersés. C'est un de leurs représentants qui sera là dans 20 minutes.
Oui, il s'agit de l'eurodéputé Rassemblement National, Nicolas Bay. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Appelez-nous, intervenez vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter.
À la une, également la maison Sonia Riquel en redressement attend des repreneurs avant ce soir. San Francisco interdit la vente de cigarettes électroniques. Et au cinéma, La femme de mon frère, une comédie loufoque et québécoise.
France Inter.
C'est une instance indépendante mise en place par Emmanuel Macron en pleine crise des Gilets jaunes. Le Haut Conseil pour le climat rend son premier rapport aujourd'hui. Et le diagnostic de ses 11 experts est le même que celui des écolos, celui qu'il répète sur tous les tons. La France n'en fait pas assez contre le réchauffement de la planète. Elle est en retard sur ses objectifs. Elle ne sera pas à l'heure pour la neutralité carbone en 2050. Et le principal coupable est désigné. Ce sont les transports. Lisa Guyenne.
C'est le problème majeur pointé dans ce rapport. Malgré les politiques environnementales menées ces dernières années dans le secteur des transports, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué depuis 10 ans. Plusieurs raisons à cela, selon Corinne Le Quéré, climatologue et présidente du Haut Conseil pour le climat.
La demande augmente, l'électrification est en retard et on continue à préférer la voiture individuelle. Donc ça cause vraiment des gros blocages au niveau des transports pour justement changer la façon dont on se déplace.
Dans le détail, les transports de voyageurs ont augmenté 3 fois plus vite que prévu. Le passage à l'hybride et à l'électrique est décevant, avec seulement 2% de part de marché contre 9% attendu. Et puis le transfert modal, le passage de la voiture à des modes moins polluants comme le vélo ou les transports en commun, n'a pas fonctionné à hauteur des espérances. Autant de points abordés dans le projet de loi mobilité discuté en ce moment, mais dont l'efficacité reste encore à prouver, selon Corinne Le Quéré.
Qui peut me dire la loi mobilité, qu'est-ce qu'elle va donner en termes de réduction d'émissions au niveau quantitatif, c'est-à-dire quand on met des lois en place, par exemple cette loi mobilité, combien est-ce que ça va contribuer à faire diminuer les émissions et est-ce que c'est en adéquation avec les objectifs qu'on a?
Le rapport complet du Haut Conseil vient d'être remis à Édouard Philippe. Le gouvernement dispose de 6 mois pour présenter ses réponses.
Et le Haut Conseil plaide aussi pour une reprise de la taxe carbone en plus transparente et plus équitable. Son premier rapport est à lire sur franceinter.fr. Et tiens, justement, il y a du changement dans l'air. Aujourd'hui, fini le temps où la mairie de Paris implorait pour obtenir la circulation différenciée. C'est automatique désormais en cas de pic de pollution. Et les autorités ont même anticipé aujourd'hui, comme à Lyon et Villeurbanne, en plein épisode de canicule. Pas la peine de charger la barque avec des particules fines. Alors seuls les véhicules avec des vignettes critères 0, 1 et 2 sont autorisés à rouler. Restriction inédite qui exclut plusieurs millions de voitures, de scooters, de camionnettes en Île-de-France. Benjamin Mathieu, vous êtes place d'Italie à Paris. Est-ce que les Franciliens jouent le jeu ?
Oui, plutôt Florence. Dans la grande majorité des cas, les voitures que je croise ici respectent l'interdiction de circuler pour les véhicules qui portent une vignette critère au-delà du numéro 2 de couleur jaune. Pourtant, il ne m'a pas fallu longtemps pour croiser des véhicules portant une vignette de couleur orange. La critère 3, aujourd'hui interdite, et c'est une première. Et s'ils ont pris la voiture ce matin, ce n'est pas par manque d'information.
Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais.
Et pourtant, vous circulez quand même.
On n'a pas le choix, c'est ça, c'est le boulot, il faut aller travailler.
Je viens de le voir sur le périph' là.
Vous avez reçu des ordres ou
de... Ouais, du patron. Ils sont prêts à payer l'amende, hein. Faut y aller, on a des fenêtres à poser.
Il s'agit, vous l'avez entendu, en majorité de professionnels, des chauffeurs-livreurs ou des ouvriers du bâtiment. Pourtant, s'ils sont arrêtés, comme sur un barrage de police mis en place par exemple ici, place d'Italie, ils risquent une amende salée, 68 euros pour un véhicule léger et 135 euros pour un poids lourd. Mieux vaut donc réfléchir à 2 fois, d'autant que les contrôles seront nombreux aujourd'hui. Cette mesure, prise en raison d'un pic de pollution, concerne 4,7 millions d'automobilistes en Île-de-France, soit près de 60% des véhicules de la région. La zone d'interdiction va en effet bien au-delà de Paris. Elle concerne l'ensemble des territoires, compris à l'intérieur de la zone, formée par l'A86, cette autoroute qui forme une boucle autour de la capitale, une sorte de super périphérique francilien.
Benjamin Mathieu à Paris, place d'Italie, demande c'est Strasbourg qui imposera la circulation différenciée. Grenoble l'a demandé sans réponse pour l'instant. Grenoble, où le thermomètre flirte avec les 40 degrés au plus chaud de la journée. La ville est une cuvette habituée à suffoquer, mais là c'est particulièrement dur. Reportage dans le chaudron où certains arrivent à prendre de la hauteur, signé Thibault Lefebvre.
34 degrés à l'ombre, selon le thermomètre affiché sur le tableau de bord.
Il y a très peu d'air.
David, la trentaine, livre des fruits et légumes. Il est né et travaille à Grenoble.
On sent qu'il y a un nuage qui empêche l'air de passer. C'est comme si on tendait une grande bâche en plastique avec un soleil qui tape dessus assez fort. Il y aurait une sensation très étouffante, un peu oppressante. Ça, c'est l'effet cuvette.
Alors, pour échapper à l'étuve, il faut prendre de la hauteur.
Bonjour monsieur, je voudrais monter à la Bastille avec mon fils de 3 ans et le bébé.
La Bastille, 600 mètres d'altitude, accessible en moins de 5 minutes par télécabine. Dans l'œuf, Julien, le papa, Hugo, le grand frère et Nora, le bébé.
Pour l'instant, je me demande si j'ai pas fait une bêtise parce que Nora a chaud. Les œufs, il y a un petit effet de serre. Et donc là, on étouffe. Mais on va d'autant plus apprécier la fraîcheur dans les 2 minutes qui nous restent à attendre avant d'arriver là-haut.
Et le point le moins chaud de la Bastille est à un peu plus de 200 mètres du sommet.
Allez Hugo, on y va.
Direction les grottes de Mandrin, de longs couloirs sombres, humides et surtout très frais.
On a perdu 15 degrés d'un coup là, on est parti de la fournaise pour arriver dans la fraîcheur, c'est magique. Il n'y a personne, hein. Donc surtout vous ne le dites pas à France Inter, il ne faut pas que tout le monde vienne dans les grottes cette semaine.
Julien peut être rassuré, les grottes de Mandrin ne sont pas mentionnées sur la carte de la centaine de lieux de fraîcheur mise en ligne par la mairie.
Thibault Lefebvre, je crains hélas que tout le monde soit au courant. Désormais, coup de chaud dans une école des Ardennes hier, 9 enfants pris de malaise à l'heure du déjeuner. Une cinquantaine d'écoles de l'Essonne vont fermer demain et vendredi, une dizaine à Tours et dans des communes de l'Aisne. Dans l'Aude, c'est l'arsenic qui fait peur. La préfecture annonce une série de mesures pour la vallée de l'Orbiel où 3 enfants au moins ont été intoxiqués. Accès interdit dans les stades et les aires de jeu de Conques, Trèbes et Villadier. Tous les fruits et légumes produits dans la vallée sont aussi interdits à la vente et à la consommation. Des tests urinaires seront pris en charge pour les enfants dans cette ancienne zone minière.
Il est 8h08, Florence, de la radicalisation dans les services publics.
Phénomène marginal selon la longue enquête menée par 2 députés et rendue aujourd'hui. Peu de cas dans l'armée, la police et la gendarmerie. En revanche, Élodie Forêt, dans les prisons, les universités, les transports ou encore dans les fédérations sportives, la situation est plus préoccupante.
Un surveillant de prison priant avec un détenu dans sa cellule, des agents de maintenance de la RATP recrutés sans enquête préalable, des salariés d'aéroports de Paris suivis pour radicalisation titulaires d'un badge rouge leur donnant accès aux zones réservées. Autant d'exemples égrenés pour illustrer ces zones d'ombre, 2 points noirs en particulier. Les prisons d'abord surpeuplées où par exemple la question des femmes radicalisées n'est pas du tout prise en compte, pas de quartier étanche pour ces détenus, ou des gardiens aussi peuvent être exposés avec, selon les syndicats, une inquiétante baisse d'exigence dans le recrutement. Certaines fédérations sportives, ensuite sport de combat notamment, où il ne serait pas rare de voir des prières collectives dans les vestiaires, des salles interdites aux femmes ou même des calendriers de compétition adaptés aux fêtes religieuses. Pour Éric Poulia, l'un des auteurs du rapport, c'est un terreau idéal.
Il y a un nombre d'acteurs importants. Le ministère, les fédérations, et vous avez des intérêts parfois divergents. La fédération, elle regarde les résultats sportifs. Parfois, elle regarde peut-être pas assez comment ils se comportent ou qu'ils sont véritablement, tant que les résultats sont là.
Les deux auteurs du rapport qui dénoncent un déni des pouvoirs publics, ils préconisent de multiplier les enquêtes administratives, notamment dans le recrutement des encadrants sportifs.
Des grenades de désencerclement et des LBD ont bien été utilisées samedi à Nantes lors de l'opération policière qui a dégénéré sur les quais la nuit de la fête de la musique. Les syndicats de police en attestent. La maire de Nantes demande que la lumière soit faite extrêmement rapidement sur ces événements. 14 personnes sont tombées à l'eau cette nuit-là, dont l'une est portée disparue. La maille et les rayures, signée Sonia Riquiel depuis 1968. L'emblématique maison de vente verra-t-elle l'an 2020? Elle va mal. Le tribunal doit se prononcer sur sa reprise le 1er juillet prochain. 133 salariés sont concernés. Les candidats pour reprendre la grande maison jusqu'à minuit aujourd'hui pour préciser leurs offres, Maxime Deps.
Ma mode est beaucoup plus liée à un mode de vie qu'à une mode tout court. Elle joue.
Si Sonia Riquiel jouait de la maille et du tricot, cela fait longtemps que les salariés de l'atelier de Saint-Germain-des-Prés ne jouent plus. 2012, la société passe sous pavillon chinois et revoit sa stratégie jusqu'à trahir quelque part l'esprit de la marque, d'après Norbert, son chef d'atelier.
On fait un produit très joli, mais qui, à la fin, est compliqué à mettre. Et donc, en fait, on ne suit pas les codes de ce qui a fait le succès d'une maison à laquelle son personnel, aujourd'hui, est encore extrêmement attaché.
Attaché au point que l'entreprise a beau être dans l'incertitude depuis des mois, les salariés, avec leurs moyens, ont tout de même travaillé à des modèles pour cet automne, comme peut en attester Zaya, directrice de boutique.
Chacun fait son travail et jusqu'au bout. La preuve, la collection est sortie. Aujourd'hui, elle est dans les showrooms.
Aujourd'hui, 10 offres de reprise sont sur la table, mais l'une d'elles ne propose de repartir qu'avec une trentaine de salariés.
Reprendre la marque, c'est une chose, mais la marque sans les salariés, non.
Si cet employé espère encore une amélioration des offres, une autre, Andrea, la plus jeune, craint le pire et ne comprend pas.
Sonia Riquiel, c'était la femme libérée des vêtements, qui épousait les formes du corps, qui a marqué les esprits. Et je trouve que de l'effacer de l'histoire de la mode, ce serait vraiment un fashion faux pas.
Andrea d'insister, c'est de culture française, de patrimoine dont on parle ici. Les repreneurs intéressés ont jusqu'à minuit pour peaufiner leur dossier.
Maxime Deps et Miles Davis pour la musique. Il aura l'insigne honneur de déjeuner avec l'empereur Emmanuel Macron au Japon pour une visite officielle avant le G20 d'Osaka vendredi et samedi. Rien à signaler dans les bonnes relations entre la France et le Japon, si ce n'est le dossier Renault-Nissan et l'alliance fragilisée depuis l'arrestation de Carlos Ghosn. À l'étranger, toujours, la France s'apprête à rouvrir la visite du tombeau des rois de Jérusalem, site qu'elle administre et qui était fermé depuis 2010. Au Brésil, la Cour suprême a rejeté hier deux demandes de libération de l'ancien président Lula. Elle se prononcera plus tard sur l'impartialité du juge Moro qu'il a envoyé en prison. Et puis au large de l'île italienne de Lampedusa, le bateau humanitaire Sea-Watch, bloqué depuis 13 jours avec 42 migrants secourus à bord, n'émeut définitivement pas Matteo Salvini. Il peut rester là jusqu'à Noël, dit le ministre de l'Intérieur, qui refuse leur débarquement.
Il est 8h12, ces volutes de barbapapa ou de cocktails de fruits font un tabac chez les jeunes aux États-Unis.
Mais c'est fini. San Francisco dit stop et interdit la vente de cigarettes électroniques. Première grande ville américaine à le faire, Loïc Piala, elle veut protéger les ados qui s'adonnent de plus en plus au vapotage.
L'an dernier déjà, San Francisco est devenue la première ville des États-Unis à interdire les cigarettes électroniques au goût de fruits. Trop tentant pour la jeunesse à ses yeux. Cette fois, elle interdit la vente de toute cigarette électronique. Le tabac tue 40 000 personnes chaque année rien qu'en Californie. Shaman Walton, le conseiller municipal à l'origine de la nouvelle législation, a expliqué ses motivations en séance la semaine dernière.
On a passé les années 90 à se battre contre l'industrie du tabac et maintenant on la voit sous une nouvelle forme avec les cigarettes électroniques. Je ne vais pas privilégier les profits du tabac à la santé de nos enfants et de notre jeunesse.
Un coup dur pour Jules qui règne sur 70% du marché. La firme lancée il y a seulement 2 ans à San Francisco vaut déjà des milliards de dollars. Alors elle ne compte pas en rester là face à ce qu'elle qualifie de prohibition. Elle fait campagne pour imposer un référendum local sur le sujet. Sa proposition pourrait bien convaincre les petits vendeurs de tabac inquiets pour leur chiffre d'affaires. Dans un édito, le Los Angeles Times aussi s'oppose à l'interdiction, jugée trop stricte. Après tout, les cigarettes traditionnelles restent en vente et de l'autre côté du pont, la ville voisine d'Oakland vient de dépénaliser les champignons hallucinogènes. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et en France, 700 000 personnes ont arrêté de fumer grâce au vapotage, selon une étude de Santé Public publié aujourd'hui. Champion de France de basket pour la 19e fois, Villeurbanne hier a battu Monaco. La dernière fois qu'ils avaient gagné, c'était en 2016. Un petit mot de football aussi pour vous dire que les Japonaises, vice-champions du monde, ont été battues par les Pays-Bas hier soir au mondial féminin de foot. 2-1 pour les Néerlandaises qui rejoindront l'Italie en quart de finale. Enfin, décidément, les Québécois sont forts en film loufoque et un télo, on se souvient de ceux de Denis Arcand, le déclin de l'Empire américain par exemple. Voici La femme de mon frère, signée Monia Choukri, qui était une des actrices de Xavier Dolan, une comédie pop et un télo très drôle, nous dit Corinne Pellissier, qui met en scène une jeune thésarde recalée.
À quel moment t'as réalisé que tu vivrais peut-être jamais dans le monde auquel t'aspires ?
Elle vient de passer 8 ans à étudier, pour rien, une thèse sur l'intrication des dynamiques familiales et politiques chez les continuateurs d'Antonio Gramsci. Voilà qui donne le ton de cette comédie en poil intello sur le malaise des trentenaires en quête d'un premier boulot.
Tu es, disons, surqualifiée.
pour tous les emplois auxquels j'étais soumise. Et en même temps, t'as de l'expérience dans aucun domaine.
À 35 ans, Sophia, son revenu, son appart, et avec un prêt étudiant à rembourser, vit chez son frère, le beau Karim, son complice de toujours, avec lequel elle entretient une relation des plus fusionnelles. Mais alors qu'il l'accompagne un jour pour la soutenir dans son deuxième avortement, celui-ci tombe amoureux de la gynécologue de Sophia et soudainement tout bascule.
Quel genre d'individu détraqué, drague le médecin qui vient d'avorter sa propre sœur.
Fini les blagues et les devinettes, les regards malicieux, les chamailleries, les discours nihilistes sur l'amour. La jeune femme est désormais un poids mort dans le living room familial et les relations vont sérieusement se distendre façon vaudeville. Des portes qui claquent, des répliques cinglantes jusqu'à l'overdose. Dans un film à l'univers pop très stylisé où l'on rit beaucoup, coup de cœur pour le personnage de Sophia, un peu peste et sans filtre, que l'on verrait bien sorti d'un film de Xavier Dolan.
C'est comment ? Parce que moi j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit, genre belle mais potentiellement morte à l'intérieur.
Voilà, la femme de mon frère, c'est un film inter.
Merci Florence Paracuelos.